Bienvenue sur Dis-moi ton hôpital, le podcast pour découvrir autrement le centre hospitalier de Dunkerque.
Dis-moi ton hôpital, l'actualité de l'hôpital de Dunkerque. Dis-moi ton hôpital, aujourd'hui en mode grue, bétonneuse ou encore marteau, puisque nous allons évoquer les travaux au CHD.
Dis-moi ton hôpital. La minute DG.
Nouveau numéro donc de ce podcast, Dis-moi ton hôpital. Nous sommes avec Yves Marlier, le directeur du centre hospitalier. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et nous sommes avec Thierry Popart, le président de la CME, commission médicale d'établissement.
Bonjour.
Merci aussi d'être avec nous. Monsieur le directeur, vous êtes aussi chef de chantier. Je l'avais déjà fait celle-là, je crois, lors des vœux, cette blague un peu de ringard. Non, parce qu'on va évoquer donc les travaux sur ce podcast, et c'est vrai qu'ils vont être très nombreux dans ces prochains mois, et ça va commencer très vite, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, ça peut sembler un peu paradoxal à un moment où on parle surtout de tensions sur les effectifs, de fermeture de services, de fonctionnement quotidien, de parler de travaux à l'hôpital, là où on voit bien que les urgences sont plutôt sur le personnel, mais pour autant, il faut évidemment, notre responsabilité, c'est de structurer cet établissement pour le territoire, à la fois pour répondre à des besoins à court terme, à moyen et à long terme. Donc c'est vrai qu'à court terme, on a un énorme projet qui est sur des rails depuis un bon moment, et je pense que Thierry Popart en dira un mot tout à l'heure, puisqu'il était plus à l'initiative que moi sur ce dossier, puisqu'il a été entamé bien avant mon arrivée. C'est la relocalisation du service de réanimation et l'unité de soins continus, ainsi que le service de dialyse et de néphrologie. Alors c'est un projet qui devrait démarrer effectivement en milieu d'année prochaine pour se terminer fin 2024, sachant qu'il travaillera physiquement, on commencera à voir le chantier, à voir des grues, mais en amont, il y a tout un travail qui a été fait par les équipes de définition des besoins, de structuration du service, d'organisation logistique et médicale. Alors c'est vraiment un sujet sur le moyen terme important, puisqu'on a vu la problématique des réa pendant le Covid, et l'hôpital de Dunkerque, conçu en 76, a un service de réa qui est trop petit, ce qui avait imposé d'installer les soins continus à distance avec 5 étages d'écart. Et on voit très bien comment ça peut être inconfortable pour les personnels médicaux et paramédicaux de fonctionner avec une telle discontinuité territoriale. Donc ça, c'est le premier gros sujet. Le deuxième sujet qu'on va essayer de faire en même temps, c'est le bâtiment de consultation qu'on va, en réaménageant l'ancien bâtiment de l'unité de soins de longue durée, la pergola, pour les Dunkerquois qui connaissent le site de l'hôpital. L'idée était à la fois de regrouper sur un seul site pour une meilleure lisibilité pour les usagers, de voir, je viens en consultation de l'hôpital de Dunkerque, j'ai un bâtiment, je sais où je vais, et c'est en un seul lieu, et donc c'est plus dispersé dans l'hôpital. Secondairement, ça nous permet aussi de libérer de la place dans l'hôpital pour commencer, sans attendre la rénovation lourde qui arrivera, on en parlera tout à l'heure, dans plusieurs années, des réaménagements intérieurs de l'hôpital, et notamment du plateau du premier étage. Donc le troisième gros chantier qu'on va aller défendre la main dans la main près de l'ARS, c'est celui qui avait été annoncé par l'ARS en fin d'année avec les fameux 50 millions de l'hôpital de Dunkerque qui vont permettre à la fois de réhabiliter thermiquement l'établissement. On va refaire les façades, on va recréer un peu de surface, on va aussi faire énormément de sécurité incendie puisque c'est un bâtiment qui a maintenant une cinquantaine d'années, donc il y a des mises aux normes de sécurité incendie à faire, et on réaménagera aussi donc le plateau technique, les blocs opératoires, le parcours de chirambulatoire qui est aujourd'hui peu performant. Voilà, pendant ce temps-là, mais on en parlera sûrement tout à l'heure, je sais que vous voyez après les services techniques, il y aura évidemment, on continuera au fil de l'eau à faire des petits chantiers d'aménagement, de remettre un coup de peinture, comme on l'a fait sur la pédiatrie, comme on l'a fait déjà sur l'hématologie.
C'est vrai que le chantier de ce service de réanimation, c'est un gros chantier qui attend l'hôpital.
Oui, c'est un sujet essentiel, comme l'a dit Monsieur Marlier. C'est quelque chose de très attendu, sur lequel on s'est positionné très vite à l'issue de la crise Covid, qui nous avait démontré que notre organisation et notre service n'étaient pas du tout dimensionnés aux besoins de la population. Et en termes de fonctionnalité, c'était pas du tout non plus adapté à la prise en charge correcte des malades. Et ce qui nous avait aussi gêné, c'est sur toute la problématique de mutualisation du personnel, puisqu'on était obligé d'avoir plusieurs équipes nécessaires pour pouvoir s'occuper de deux territoires différents de soins intensifs. Là, c'est quelque chose de très attendu à la fois sur l'agglomération dunkerquoise, mais également sur le bassin de vie du littoral, puisque notre équipe médicale s'est renforcée, elle est solide, et on souhaite avec ce nouveau bâtiment, rester très attractif également sur le renouvellement et l'arrivée de nouveaux médecins réanimateurs.
Le calendrier, rappelez, ce sera quoi alors ?
Alors le calendrier, donc il va falloir compter à peu près deux années pour arriver au terme de l'ensemble des travaux. Donc c'est un objectif 2024 en fait.
Monsieur le directeur, sur ces différents travaux, notamment sur la consultation, ça parle aux gens au quotidien, même les travaux qu'il y aura après, où on aura un bâtiment qui va forcément être rénové, qui va être plus beau aussi. On avait déjà aussi parlé lors des vœux, on a un hôpital qui se rapproche de la population, c'est important ça aussi. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les projets de réaménagement, il y a aussi dans un chantier qu'on espère faire assez vite, c'est de rapprocher la maison médicale de garde de l'hôpital, notamment d'être plus proche de la médecine de ville. On travaille énormément avec les deux CPTS du territoire, donc les comités pluriprofessionnels de santé, donc qui sont des organisations qui regroupent l'ensemble des acteurs libéraux d'un territoire. Donc on est en lien avec eux pour travailler, pour mailler ce territoire, et on est évidemment tourné vers la ville puisque nous avons les mêmes patients, donc c'est important qu'on ait ces allers-retours. On est aussi donc avec l'association qui gère la permanence de soins de ville. Oui, ce qui est important, c'est important d'avoir un hôpital lisible pour la population, parce que je le dis toujours, l'hôpital c'est pas l'hôpital des professionnels, c'est un outil de travail, mais c'est d'abord la maison de tous, c'est l'hôpital public, il appartient à tout le monde, et c'est ce qui fait la différence avec le privé lucratif notamment.
Dernière question, je suis un tout petit peu hors sujet, mais pas tellement finalement. On a évoqué il y a un instant le service de réanimation, le service qui vient d'obtenir le label prix de bonne pratique. On a aussi la maternité Angèle Barbion qui est devenue amie des bébés récemment. Toutes ces récompenses, c'est pas juste une médaille sur un mur. J'imagine que pour vos services, c'est important voilà, de se dire bah, voilà, on fait du travail, on est mobilisé, on n'arrête pas depuis notamment la crise sanitaire. Mais bon, bah, ce qu'on fait, c'est aussi valorisé, c'est important ça j'imagine.
Oui, bon, le président de la CME en parlera mieux que moi puisque c'est lui qui est le garant de la qualité de la sécurité des soins par la réglementation mais aussi par sa personnalité. Mais c'est sûr que ces labellisations qu'on peut avoir sur le laboratoire, qu'on peut avoir sur la réanimation, qu'on peut avoir sur l'imagerie médicale ou encore la maternité, ça participe à la démarche qualité d'établissement, de sécurité, de permanence de soins. Et toute cette démarche qui est labellisée effectivement par la haute autorité en santé de manière globale, chaque fois qu'on peut avec des sociétés professionnels, avec des associations, aller plus loin que les exigences réglementaires, on y va parce que c'est important. Je pense qu'il est important pour les salariés d'être fiers du travail qu'on fait et que ce soit reconnu et porté à la connaissance de tous.
Docteur Thierry Bopart.
Oui, je ne peux que confirmer, d'autant plus qu'on s'inscrit dans une démarche de politique de qualité avec une prochaine certification qui va avoir lieu en juin 2023. Donc pour nous, c'est une échéance très importante et qui validera, j'espère, tous les travaux sur la qualité, la sécurité des soins, et on sera bien entendu audité par donc un organisme indépendant en vue de cette certification sur laquelle on est en plein travail.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Au revoir.
Dis-moi ton hôpital. Le Zoom du mois en 4 questions.
Deuxième partie de ce podcast à votre service. Ce mois-ci, nous mettons en lumière le métier d'ingénieur au sein d'un service technique hospitalier. Nous sommes avec Guillaume Recourt, qui est directeur adjoint des projets et des services techniques. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Et avec Hugues Frances, qui est ingénieur génie civil et biomédical. Merci à vous.
Bonjour à tous.
Alors, c'est quoi en fait votre travail déjà, tout simplement, monsieur Recourt, voilà, directeur adjoint des projets et des services techniques.
Tout simplement, et en introduction...
Quand il y a une machine qui ne marche pas, quand il y a le tape scan qui tombe en panne, on fait appel à vous, c'est ça?
C'est ça, entre autres, et puis aux techniciens, et puis aussi aux prestataires qui interviennent sur ces sujets-là, mais... De manière plus globale, en fait, le service technique et biomédical, on est une équipe d'environ 60 personnes dédiées au support de l'établissement, et on est répartis en plusieurs services dans la direction. On a une partie des électriciens, on a des plombiers qui font aussi de la climatisation, de la ventilation et du chauffage. On a également fait de la gestion de projet sur la reconstruction, de la construction ou de la rénovation. On a aussi une équipe de polyvalence qui fait de la menuiserie, de la peinture et de la serrurerie. C'est également une dessinatrice. On a la chance d'avoir une dessinatrice dans l'établissement pour l'ensemble de nos projets. Ça nous est d'une grande aide. Et on a le service du biomédical qui est lui en charge de la maintenance préventive et curative du matériel médical Et en dernier lieu, un service également aussi important, qui est le service de sécurité incendie.
C'est quoi votre quotidien, une démarche travaux par exemple? Qu'est-ce que ça représente en fait?
Moi effectivement, on est deux ingénieurs au service technique. En fait, je suis particulièrement investi en fait, sur le domaine des travaux, de l'entretien des bâtiments et du biomédical et de la téléphonie. Et donc je suis accompagné dans mes missions par plusieurs équipes de techniciens spécialisés. Et pour parler d'une opération de travaux, le déroulé, il y a beaucoup d'étapes en fait avant d'arriver à l'ouverture d'un bâtiment. Effectivement, la première étape consiste en un travail collaboratif avec l'ensemble des professionnels du CHD pour définir un programme de construction de locaux répondant aux besoins pour la prise en charge des patients en toute sécurité. Mon rôle en tant qu'ingénieur travaux est de coordonner en fait cette démarche dans un premier temps. Lorsque ce programme de travaux de besoin est établi, en fait, nous lançons une étude de faisabilité qui permettra de vérifier si le bâtiment qu'on envisage, il peut être construit à l'emplacement qu'on envisage. Est-ce qu'il n'y a pas de contrainte, de contre-indication? Et à ce stade-là de l'étude de faisabilité, on définit aussi le coût estimatif de l'opération. Et lorsque tout est validé institutionnellement, en fait, nous lançons la phase concours qui permettra de choisir l'équipe, donc les architectes, le bureau d'études et les entreprises qui réaliseront le projet. En fait, quoi. Par exemple, pour notre projet de construction d'un nouveau bâtiment, en fait, médecine réanimatoire intensive, l'hémodialyse, la néphrologie, nous avons retenu trois candidats initialement. Et nous avons présenté ces trois candidats nous ont présenté donc trois projets répondant au programme des besoins. Ces trois projets sont ensuite analysés au cours d'une commission technique, en fait, composée de nombreux professionnels du CHD, des médecins, des techniciens, des services logistiques, etc. Et nous établissons alors des remarques fonctionnelles, en fait, afin de faire évoluer un petit peu les offres que nous présentent les trois candidats pour aboutir à des offres finales améliorées. Et ensuite, il y a un jury de concours qui se réunit pour choisir le candidat qui sera retenu. Et la sélection se fait selon plusieurs critères. On peut citer notamment les critères de l'aspect fonctionnel du bâtiment, l'architecture, la qualité technique et environnementale du bâtiment, ainsi que le coût de l'opération. Lorsque l'équipe est choisie, nous entrons alors dans une phase d'étude de conception qui est relativement longue, en fait, comme l'a dit M. Marlier tout à l'heure. On a 10 à 12 mois d'études, en fait, car il y a lieu de respecter de nombreuses règles de construction, comme les règles de sécurité incendie et toutes les règles qui sont relatives en fait, au bâtiment recevant du public. Ensuite, une fois que cette phase d'étude et de conception en fait, est terminée, on rentre dans la phase de construction, où là on commence à voir apparaître effectivement les grues à tours sur l'hôpital. Et la construction, elle va se faire en fait, sur une période d'environ 12 mois. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ingénieur travaux hospitalier, en fait, il est alors en fait le chef d'orchestre en fait de l'opération. Il est le garant du suivi du bon déroulement de l'opération à toutes les phases du projet, et il travaille en lien étroit en fait avec l'ensemble des professionnels de l'hôpital et l'équipe en charge de la construction.
Votre travail, on rappelle donc Ude Française, vous êtes ingénieur génie civil et biomédical. Ça veut dire quoi biomédical?
L'ingénieur biomédical, en fait, c'est celui qui est en charge des équipements biomédicaux. Et donc, en tant qu'ingénieur biomédical du CHD, je suis tout seul dans ce cas-là. En fait, aujourd'hui, je suis accompagné aussi de techniciens spécialisés dans ce domaine-là. Et mes missions principales sont tout d'abord en fait être le garant du suivi de la maintenance et du renouvellement du parc d'équipements biomédicaux. Les équipements biomédicaux sont bien sûr indispensables pour assurer la prise en charge des patients en toute sécurité. Et donc je participe à l'élaboration du programme d'équipements biomédicaux avec une commission de matériel qui propose les projets d'achat en fait de renouvellement d'équipements pour les deux prochaines années. Cette commission, elle se réunit donc une fois tous les deux ans, et les propositions sont bien sûr faites après un recensement des besoins effectués auprès de tous les professionnels en fait, des différents services de soins. En fait. Les budgets alloués aux équipements biomédicaux sont relativement conséquents. En fait, c'est plusieurs millions d'euros qui sont investis chaque année par le CHD, en comptant les renouvellements de petits matériels, mais aussi les équipements lourds tels que les scanners, les IRM, les matériels de stérilisation ou la robotique. En fait, quoi. Une seconde mission consiste également à organiser la maintenance des équipements biomédicaux. Alors celle-ci, elle est soit réalisée par les techniciens spécialisés en interne de l'hôpital, soit elle est externalisée et souvent on la confie en fait aux fabricants parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir être très performant en fait sur des appareils tels que les scanners IRM en fait, où il faut une formation très, très pointue et où on n'a pas un parc important pour pouvoir former nos techniciens. En fait, quoi. Donc il y a lieu donc de rédiger en fait dans ce cas-là des contrats, des cahiers des charges, des contrats de maintenance. Et mon rôle c'est de m'assurer que les contrats sont renouvelés et sont en adéquation aux besoins pour assurer la sécurité.
On continue donc à évoquer justement l'aspect technique de l'hôpital, comment justement on répare une machine, elles sont nombreuses évidemment au CHD. On est toujours avec Monsieur Guillaume Recourt, on va évoquer avec vous justement l'aspect sécurité, comment ça se passe en fait?
Alors l'aspect sécurité, là on est plutôt dans le domaine de la maintenance, hein, maintenance préventive et curative. Ici on a plutôt trois domaines d'action assez spécifiques. Hein. On a dans un premier temps tout ce qui est plomberie, climatisation, ventilation, chauffage et puis les fluides médicaux. Et finalement ici, ces équipes-là, elles doivent veiller au bon fonctionnement de ces installations dans le domaine de l'eau, de l'air et du chauffage. Et ils réalisent donc des maintenances préventives et curatives avec des plombiers et des prestataires spécialisés. Parce que sur certains domaines d'action, bon voilà, il faut être assez précis, on travaille beaucoup avec des prestataires sur ces sujets-là. Mais par exemple, à titre d'exemple, pour illustrer un petit peu le travail au quotidien des plombiers, il y a des zones sensibles sur lesquelles on intervient, notamment un bloc opératoire, où là on est responsable de la gestion de la ventilation, qui est un élément sensible dans un bloc opératoire. Par ailleurs, en termes de traitement de l'eau, par exemple, on a une unité de stérilisation, voilà, et on gère le traitement de l'eau dans cette unité-là, parce que l'eau à cet endroit-là, voilà, c'est un vecteur aussi de risque. Aussi, ils interviennent par exemple aux cuisines, hein, sur tout ce qui est matériel de cuisson et les chambres froides. Voilà, c'est aussi un aspect de leur rôle. Et en dernier lieu, ce service-là, il a aussi une partie expertise technique. Monsieur Française précédemment parlait des opérations de travaux, il parlait aussi tout à l'heure parler de ces opérations-là. Et en fait, ces services-là, ils viennent vérifier ou en tout cas donner leur expertise technique sur la partie plomberie ou climatisation d'un nouveau bâtiment ou d'une rénovation d'un bâtiment. Ensuite, on a la deuxième équipe qui est constituée d'électriciens. Là aussi, ils viennent veiller au bon fonctionnement des installations techniques, de l'arrivée de l'électricité à l'hôpital jusqu'à sa distribution à tous les points qu'il nécessite. Et là, il y a une maintenance préventive et curative également, qu'on qualifie de maintenance sur les courants forts, donc la haute tension, et la maintenance sur les courants faibles, dits de basse tension. C'est le service qui garantit également le bon fonctionnement des groupes électrogènes. Et ça, c'est aussi un point très sensible, parce que s'il y a une panne générale d'électricité dans l'établissement, c'est les groupes électrogènes qui prennent le relais pour que tout fonctionne. Et donc, on se doit, et ça de façon hebdomadaire, on les teste toutes les semaines. Comme ça, le jour J où il y a vraiment un problème, ils peuvent prendre le relais. Et puis, ce service-là, les électriciens sont aussi dans un domaine d'expertise sur les projets de construction et de rénovation de l'hôpital. Et le dernier service associé à la maintenance préventive et curative, c'est le service de sécurité incendie. Et là, ce service-là, il a pour rôle de garantir donc la sécurité des biens et des personnes. Leur mission est quotidienne, 24 heures sur 24, et s'assure que les installations de sécurité incendie sont en bon état de fonctionnement. Par exemple, les alarmes incendie, les têtes de détection incendie, les extincteurs, le désenfumage. Donc ils assurent une permanence afin d'intervenir en cas de difficulté de nécessité. Et ils assurent également la vidéoprotection du site. Voilà, c'est à cet endroit-là. Aussi, un élément important, peut-être qu'on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais l'équipe de sécurité incendie forme le personnel à la sécurité incendie, en tout cas au premier geste, en cas de difficulté. Et puis, c'est également le conseiller technique sur nos opérations de travaux, parce que quand on doit mettre en place un système de désenfumage ou un nouvel SSI dans un nouveau bâtiment, on a besoin de leur expertise aussi. Sur ces sujets-là.
On a entendu pas mal parler dans l'actualité ces derniers mois de cyberattaques face à des hôpitaux. Du coup, c'est aussi votre travail justement d'éviter ce genre de choses, de protéger le CHD?
Pas moi directement, c'est le service informatique, oui. Mais ce qu'on peut considérer, c'est dans l'évolution du matériel biomédical, effectivement, les équipements sont de plus en plus en fait informatisés et comportent donc des systèmes de style ordinateur en fait, et ils sont maintenant de plus en plus connectés au réseau informatique de l'hôpital. Je travaille donc en étroite collaboration avec le service informatique afin de veiller à la bonne sauvegarde des données, à la cybersécurité par rapport aux équipements que je vais connecter moi sur le réseau, équipements biomédicaux, ainsi qu'au recueil et au partage des données qu'on mesure en fait avec les équipements pour les envoyer directement vers le dossier patient en fait. Nous avons d'ailleurs en fait un projet en cours pour le déploiement de moniteurs de prise de constante connectés au niveau des services de soins sur l'ensemble de l'hôpital afin que les infirmières évitent en fait de retranscrire manuellement en fait ces données là en fait, quoi.
Ah, c'est important ça pour les gens qui ont écouté, donc en gros voilà, quand on est à l'hôpital, les données personnelles, on est tranquille quoi, il y a un gros niveau de protection quoi.
Exactement.
Du coup, vous allez avoir du travail là dans les prochains mois du coup.
Ouais. Beaucoup bon. De travail.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dis-moi ton hôpital. En bref.
Troisième partie de ce podcast, Dis-moi ton hôpital, nous allons évoquer l'actualité de ces dernières semaines et puis la suite de ce qui va se passer. Quand la musique permet la rencontre, depuis mars 2022, un projet de podcast musical original prend forme grâce à la structure de musique actuelle de Dunkerque, les 4 écluses. Ce sont 5 résidents de l'EHPAD Les Charmilles et 4 adolescentes du CMP Les 400 Coups qui échangent et se livrent par message audio interposé sans jamais se rencontrer vraiment. En fait, c'est un échange basé sur le partage des goûts musicaux, du rapport à la musique, une correspondance qui naît entre des personnes de générations différentes, l'expérience d'écoute qui finalement va les réunir. Alors à la suite de ces différents allers-retours, de ces différentes personnalités, un document sonore comme une bande-son d'une époque de la vie qu'on réécoute avec nostalgie a donc été réalisé. Quand on a 17 ans et probablement pas davantage, à 77 ans, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Ils nous parlent d'amour, d'épreuves, de la mode, du temps qui passe. C'est disponible sur les sites internet des 4 écluses et celui évidemment du CHD. Une très belle aventure, riche en émotions, riche d'échanges et de témoignages émouvants, qui a fait de la musique un support pour créer un lien. Merci aussi à la DRAC et son soutien financier, la DRAC des Hauts-de-France, pour ce projet. Prendre du temps pour s'évader et se distraire le temps d'une lecture, même à l'hôpital, eh bien c'est possible avec le kiosque libre-service Les Balises qui vient d'être inauguré par l'ensemble des partenaires, la communauté urbaine de Dunkerque, Les Balises et forcément le centre hospitalier. À plus qu'un temps de soins, la venue en consultation, le séjour hospitalier devient désormais l'opportunité pour tous, patients, usagers, accompagnants, de voyager à travers de la lecture de façon gratuite, accessible aux petits et aux grands. Alors n'attendez plus, grâce à votre carte Les Balises, vous pouvez emprunter des romans, des magazines, des bandes dessinées ou tout autre livre spécialisé lors de votre consultation ou de votre hospitalisation. Et pour celles et ceux qui ne possèdent pas cette carte, pas d'inquiétude, il sera possible de la créer à la maison des usagers du CHD qui est située à quelques pas du kiosque au premier étage. Retour sur la journée du don d'organes du 22 juin, c'était place Jean Barre à Dunkerque. Une belle journée avec 200 personnes sensibilisées sur la question du don d'organes et des tissus. Un grand merci à l'équipe de prélèvement multi-organes et de tissus du CHD dont la présence et l'énergie ont permis la réussite de cette action. Merci aussi à l'agence de biomédecine pour son soutien et à nos partenaires pour leur engagement et la concrétisation de cette journée. C'était la ville de Dunkerque, c'était Santélis Pôle Formation et c'était Décathlon Dunkerque Grande Sainte. Alors on rappelle qu'on va faire une petite pause durant cet été, on va prendre quelques vacances et du coup on commence à évoquer le mois de septembre qui sera un mois riche en animation. Ça va débuter le 6 septembre de 17h30 à 20h à la Bib, réunion d'information et d'échange à l'occasion des journées mondiales de la leucémie et des lymphomes. 17 et 18 septembre de 10h à midi, visite de l'ancien hôpital à l'occasion des journées du patrimoine. C'est sur inscription par mail au mail suivant, c'est communication@ch-dunkerque. 21 septembre, animation à la maison des usagers pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 22 septembre, stand d'information autour de la prostate géante. 24 septembre, course sportive et animation pour les virades de l'espoir, c'est près du pôle marine. Une action pour lutter évidemment contre la mucoviscidose. 29 septembre, de 14h à 16h, atelier et périnatalité autour de l'éveil, la communication et la socialisation. C'est à la salle de périnatalité du CHD. Et puis fin septembre, ce sera l'action d'information et le dépistage dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du diabète. C'est la fin de ce podcast. Merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité, tous les événements du centre hospitalier de Dunkerque sur les réseaux sociaux et sur leur site internet du CHD.
Merci et à bientôt dans Dis-moi ton hôpital. Retrouvez-nous en attendant sur www.ch-dunkerque.fr et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube @chdunkerque.